Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment susciter l'entrepreneuriat chez la femme? Beaucoup de femmes, surtout en milieu rural, n'ont pas l'essence d'initiative, d'après certaines informations, que ce soit dans la création des structures telles que les ONG ou d'activités génératrices de revenus ou dans la gestion, à propos de la gestion communautaire. Elles laissent souvent la place aux hommes, les femmes prennent du recul. Alors comment les aider, comment aider la femme à jouer un rôle de premier plan dans les différents secteurs de la vie et surtout avec sa cadre avec ce mois de la femme? Nous recevons pour en parler Madame Brigitte Kanika Soda, experte en développement. Bonjour Madame.
Bonjour.
Alors, comment faire pour susciter l'entrepreneuriat? D'abord, c'est quoi l'entrepreneuriat auprès de la femme?
Merci beaucoup pour la question. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre une activité capable de générer de recettes. Et ces recettes doivent, en fait, des revenus qui doivent arriver à couvrir le besoin de la personne.
Mmh.
Et au niveau de la femme, elle travaille. La femme fait des activités génératrices de revenus. Mmh. Ce qu'on a constaté la plupart de fois, c'est que quand elle est mariée, la plupart de fois, elle ne jouit pas de recettes générées par ces activités, ou alors elle n'exerce pas de contrôle sur le revenu qu'elle génère.
Mmh.
Et il n'y a pas seulement la femme mariée, mais même celle qui est célibataire, elle a toujours été sous l'autorité soit du père, soit des frères. Donc il faut toujours qu'il y ait l'homme au devant et la femme en arrière.
Mmh.
Voilà.
Mais nous savons que généralement, certaines femmes mariées, la femme au foyer, certaines ont du travail, certaines ne travaillent pas, mais elles ont quand même quelques activités à gauche à droite, elles vendent un peu de yaourt ici, un peu de ceci à gauche à droite, mais c'est déjà quelque chose.
Oui, c'est déjà quelque chose, mais d'abord je devais rectifier quand vous dites que la femme au foyer, certaines travaillent, certaines ne travaillent pas, c'est pas évident, parce que la femme, elle travaille. Il n'y a pas que le travail rémunérateur qu'on peut appeler le travail.
Mmh.
Le fait de se réveiller très tôt le matin, de commencer par balayer la cour, tout le travail ménager, c'est du travail. Parce que quand c'est l'homme qui les fait, l'homme est rémunéré. Prenons l'exemple des domestiques. Ils font du travail ménager, mais ils sont rémunérés pour cela.
Mmh.
Mais quand c'est la femme qui le fait, elle n'est pas rémunérée. Donc nous devons savoir que la femme, qu'elle soit au foyer...
C'est elle la maîtresse de la maison.
Oui, qu'elle soit au foyer ou en dehors de son foyer, elle travaille. Mais il y a le travail rémunérateur et l'autre qui ne l'est pas. Et c'est ça seulement la différence. Mais la plupart des fois, quand tu poses la question à la femme, qu'est-ce que vous faites dans la vie, elle dit toujours, je ne fais rien. Quand elle est à la maison, c'est comme si elle se réveille le matin, elle croise les bras, et pourtant, elle travaille tout au long de la journée, et elle travaille peut-être même plus que celles qui sont au bureau.
Voilà. Alors, comment, surtout dans les milieux ruraux, comment susciter le sens d'initiative auprès de la femme?
Bon, d'abord, dans les milieux ruraux, la femme est butée à plusieurs problèmes qui sont la plupart des fois liés aux coutumes.
Mmh.
Le coutume ne permet pas à la femme de s'épanouir. La femme, elle fait les champs, elle produit. Mais quand il arrive au moment de la vente, elle peut vendre, mais toujours sous le contrôle de son mari. Quand elle vend, le mari est là à côté, c'est le mari qui prend l'argent.
Mmh.
Et par rapport à l'utilisation de ses moyens, c'est l'homme qui en décide. S'il est gentil, il donne un petit rien à la femme. Mais sinon, il ne donne que juste pour la popote, pour le besoin du ménage.
Mmh.
Mais pour elle-même, il n'y a rien. Et pourtant, quand l'homme produit, il commence par, au niveau de la production, c'est lui qui contrôle. Au niveau de la gestion, c'est lui qui contrôle. Au niveau de l'utilisation de moyens, c'est toujours lui qui contrôle. Et en ce moment-là, la femme n'a même pas les droits de poser la question sur l'utilisation de moyens.
Mais ça s'est fait de commun accord, non?
Non, c'est pas toujours évident.
C'est pas évident.
Toujours de commun accord, c'est la tradition. Et la tradition veut que l'homme prenne les devants. On veut bien l'homme peut prendre les devants. Mais seulement, il faut savoir que la personne qui a travaillé, la personne qui est à la base de cette production-là, elle doit être aussi associée. Et au besoin, elle doit être non pas consultée, mais elle doit participer à tout. Et c'est ça ce qu'on appelle l'empowerment de la femme. Et quand vous parlez, quand on parle empowerment, qui veut dire le pouvoir, nous voudrions que la femme ait le contrôle sur la sur sa production, sur ce que le produit a généré comme recette, qu'elle décide aussi de son utilisation. Mais au niveau de milieu ruraux, la femme n'arrive pas à ces points-là. Elle se contente juste de produire. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont dans les travaux champêtres, les hommes ne font que les gros travaux, tels que l'abattage des arbres, ils coupent le bois, ou bien alors ils défrichent. Mais tout le reste du travail, c'est la femme qui fait. C'est la femme qui doit faire la semis, c'est la femme qui doit labourer, faire la semis, sargler et tout ça, et jusqu'à la récolte. Et quand les produits sont là, maintenant, on laisse la place à l'homme. Et la femme n'a pas de place. Et c'est là où elle est incapable de participer, même à la gestion de la communauté, la gestion de l'entité où elle vit. La femme n'a pas part dans des discussions. Elle est toujours mise à l'écart.
À cause des coutumes.
Et premièrement, elle-même, elle a été élevée comme cela. Mmh. Elle a été éduquée comme cela par sa mère, qui lui disait que la femme n'a pas le droit de parler devant les hommes. Et pourtant, on sait très bien que l'homme et la femme ont chacun sa part. Et ensemble, ils doivent se mettre la main dans la main pour évoluer ensemble. La femme a des idées. Oui. L'homme aussi a des idées. Mais s'ils peuvent tout mettre ensemble, je crois que ça sera encore un plus. Mais ce qui est vrai, c'est que la femme rurale n'a pas toujours droit au chapitre, n'a pas toujours droit à la parole. C'est ici en ville où la femme peut s'élever, elle peut faire entendre sa voix par le moyen des ondes. Mais par le moyen des ondes, par d'autres moyens, dans des conférences, elle participe, mais même en ville, elle est minoritaire. Mais à milieu rural, c'est encore plus grave. Et nous, les femmes, appelées entre guillemets, les femmes leaders, on ne donne pas aussi la place à la femme rurale. Nous nous cantonnons juste dans les grandes villes où on peut débattre de problèmes des femmes, mais oui. On oublie que la majorité de ces femmes vivent dans le milieu.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut descendre sûrement dans ces milieux et parler et apprendre langue avec ces femmes.
C'est très important. Oui. Je peux vous donner un exemple. Le 8 mars de cette année, moi je suis descendue à Bumba où je suis allée échanger avec les femmes de Bumba. Oui. Et curieusement, c'était ma première fois d'y arriver, curieusement, oui. J'apprendrai que le 8 mars a été célébré pour la première fois de l'histoire l'année passée à Bumba. Et il n'y a eu que défilé, mais les femmes ne savaient pas pourquoi elles ont défilé. Alors on a eu 4 heures de temps où on a eu à échanger avec les femmes, à discuter avec elles, leur parler.
Vous étiez au nombre de combien?
À peu près plus de 120 femmes.
Plus de 120 femmes.
Oui, plus de 120 femmes. Ce sont les femmes avec qui nous travaillons dans les programmes agricoles. Mmh. Mais cette fois-là, on a essayé un peu de ne parler que de la place de la femme dans la gestion de la communauté. Sa place à elle qu'elle doit jouer, comment elle doit participer aussi. Donc c'était un peu ça et franchement, les femmes étaient très 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 contentes parce que c'était la première fois qu'elles pouvaient discuter aussi de leurs problèmes qui concernaient les femmes, de la force qu'elles ont et de comment elles peuvent mettre ça au service de la communauté. Ça, c'était vraiment une première.
Et qu'est-ce qui a été décidé enfin? Elles ont décidé, elles vont se constituer en groupe, elles vont créer des ONG, elles vont faire quoi exactement?
En fait, à la fin, elles se sont mis d'accord pour que leur groupe soit une association, que je devais accompagner quand bien même on est loin, mais avec des idées, qu'elles vont travailler maintenant ensemble, essayer de voir dans quelle mesure elles peuvent contribuer pour l'émergence d'une leadership féminin au niveau de la ville de Bumba.
Alors, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement?
D'abord, il faudra qu'elle reconnaisse sa place en tant que femme. C'est le premier élément. Qu'elle sache qu'elle a une place prépondérante. De deux, qu'elle sache qu'elle a de la valeur. En même titre que l'homme, la femme a de la valeur. Et si elle prend conscience de ce qu'elle est, de la valeur qu'elle a, elle peut aller de l'avant. La plupart des fois, la femme se sous-estime. Et c'est là le grand danger. Elle se dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qui suis-je moi? Qu'est-ce que je peux faire? Surtout dans des groupes mixtes. Elle prend toujours les reculs. Elle ne sait pas parler, même quand elle a des bonnes idées.
Des bonnes idées,
elle se dit, mais qu'est-ce que je peux dire devant un homme? Et même quand il faut passer aux élections, il peut y avoir seulement 2 hommes devant 50 femmes. Mais quand vous dites, bon, on a besoin d'un président, tout le monde dira, prenez l'homme. Parce qu'elle se dit, la seule personne à être capable de diriger, c'est un homme. Donc, elle se sous-estime d'abord elle-même en tant que femme. Et c'est pour cela qu'il faut d'abord que cette femme-là puisse savoir sa place, qu'elle a un rôle à jouer, Elle va aussi à l'école comme l'homme. Il n'y a pas de matière spécifique à l'homme et de matière spécifique à la femme.
Oui.
Ils sont tous le même, ils ont le même matière à l'école. Et Dieu a mis le même capacité à nous, sauf que ce sont les capacités physiques qui sont différentes, ça c'est sûr. Mais les capacités intellectuelles sont les mêmes.
Donc voilà, vous avez parlé de certains freins au développement de la femme. Vous avez évoqué par exemple les cas des coutumes, les complexes d'infériorité, et puis il y a un autre problème, un grand frein, c'est le fait que beaucoup de femmes dans les milieux ruraux sont analphabètes, n'ont pas eu l'occasion d'aller à l'école, ne savent ni lire ni écrire, et ça c'est un problème sérieux.
C'est un problème très 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 sérieux.
Oui.
Et c'est qui freine aussi, ça contribue à freiner l'émergence ou le développement de la femme dans le milieu rural.
Mmh.
Et ça c'est dû à quoi? Parce que la plupart des fois, quand un parent a peu de moyens, il s'est dit, je préfère envoyer les garçons à l'école. Parce que les garçons, il est plus intelligent, c'est lui qui va perpétuer le nom de la famille demain.
Mmh.
Et la femme, elle va se marier, et peut-être que son mari ne voudra pas qu'elle aille à l'école. Alors, en ce moment-là, elle est freinée. Et pourtant, si on essaie de faire l'analyse aujourd'hui, ce sont plus les femmes qui aident leur famille. Un homme aide sa famille si et seulement si. Un homme aide sa famille si et seulement si il a eu une bonne épouse. Mais s'il a eu une très mauvaise épouse, il ne peut pas aider sa famille.
Mmh.
Donc maintenant, c'est l'inverse qui est en train de se vivre actuellement. Mais bon, il y a encore certaines pratiques, certaines personnes qui pensent que non, il faudra qu'on privilégie d'abord les garçons au détriment de la femme. Et ça, ça pose problème. Et le deuxième autre problème, c'est par rapport aux églises. Parce que les églises aussi jouent un très grand rôle pour laisser la femme dans son carcan, l'enfermer en fait. Hein. Et là, plus nous voyons les églises qui prennent aussi des traditions comme modèle.
Voilà, des questions, des réactions. Nous avons déjà Serge Camara depuis Bounia. Nous allons le retrouver juste après ceci.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parlez, nous transmettons. Proposez, nous discutons. Parole aux auditeurs, de lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Nous avons en ligne Serge Camara depuis Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute, Serge.
J'ai un dossier à l'invité du jour, l'expert en matière de développement. Et ma question est celle-ci. Et comment la femme pourrait donc s'étendre au niveau des ONG? Il y a la domination masculine qui s'impose dans toutes les actions que la femme pourra mener. C'est la cause de un handicap dans les actions qu'elle pourra mener. Pour que ça puisse donner au moins une image acceptable.
Ok, merci beaucoup Serge. La femme, elle a un grand rôle à jouer, ce que j'étais en train de dire. Mais la première des choses, qu'elle prenne conscience qu'elle a un grand rôle à jouer et qu'elle a beaucoup de possibilités, des potentialités en elle. La femme, c'est pas seulement le fait d'aller à l'école qui fait qu'on ait des capacités ou des potentialités. C'est vrai que c'est un plus qui s'ajoute.
Oui.
Mais il y a des gens, moi je connais une dame que je respecte beaucoup et que peut-être je saluerai en passant, elle s'appelle Madame Kibira, que je connais très bien.
Mm-hmm.
Cette dame-là n'a pas beaucoup étudié. Et quand vous voyez les actions qu'elle entreprend, elle travaille avec les hommes. Elle n'a même pas un diplôme d'État, mais quand tu vois ses réflexions, elle est partout dans de très grandes réflexions, elle est dans le milieu mixte et elle émerge. Et il y a des femmes comme ça. Et dans nos milieux ruraux, elles sont nombreuses. Mais le problème, c'est qu'on ne leur donne pas la parole. On leur accorde pas la parole. On ne leur laisse pas le temps de parler. Et dans des institutions mixtes, dans les ONG mixtes, où il y a des hommes et des femmes, la plupart des fois, qu'est-ce qu'on remarque? À la femme, on ne donne que les postes de gestion de l'argent. Toujours dans la comptabilité, il faut qu'elle soit caissière, ainsi de suite.
Parce que c'est pas elle-même qui veut pas occuper les autres fonctions. Et c'est ainsi qu'on s'est dit, bon, Parce que souvent vous dites hein, qui veut être à tel poste, la femme elle-même aussi s'est rébuffée, elle ne veut pas trop de responsabilité.
Mais justement parce qu'elle s'estime, elle se dit mais devant les hommes qu'est-ce que je peux dire. Et c'est ça le problème, c'est pourquoi je dis que la première des choses c'est qu'elle prenne conscience qu'elle a des capacités, qu'elle a des potentialités. Qu'elle se dise qu'elle est un être humain d'abord, avant de voir les sexes. Parce que quand nous allons à l'école, quand nous réfléchissons, c'est avec notre intellect et non avec notre physique. Et ça, d'abord, il faudra qu'elle mette ça en tête et qu'elle se dise qu'elle a la même capacité que l'homme. Et il faudra qu'elle apprenne à prendre des risques. Et c'est ça ce que la femme évite la plupart des fois.
Les risques.
Oui, le risque dans le sens positif. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que la femme, elle a toujours peur. Elle a peur de prendre les risques. Elle se dit, si j'échoue, on dirait que cette femme-là a échoué. Mais pourquoi les hommes ne se posent pas encore cette question-là? Allez-y d'abord, et c'est par les essais et erreurs qu'on arrive à se forger. Et la femme, elle hésite toujours.
Qui ne risque rien n'a rien. Jean Dambouchi nous appelle depuis Kolwezi au Katanga. Bonjour.
Bonjour, merci et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Jean.
J'ai une préoccupation à propos de ce sujet. Hein.
Oui.
Ici à Kolwezi, la plupart des maris permettent à leurs femmes de faire la commerce ou soit de vendre dans des différents marchés. Tout ça pour attendre 30 jours pour avoir quelque chose. Et qu'est-ce qu'on remarque? La plupart des femmes parviennent à dire que ce que j'ai fait comme commerce ou soit ce que j'ai fait comme je vends comme marchandise, c'est ça même mon mari, puisque ça me permet d'avoir une ration à la maison, d'acheter les habits pour mes enfants. Et nourrir même son mari qui attend 30 jours pour être payé. Et tout ça cause une, donc les maris ne permettent, donc se poussent à ne pas permettre à leur femme de faire la commerce ou de vendre quelque chose. Alors, madame l'invitée, quel conseil pouvez-vous donner aux femmes qui se tapent la poitrine parce qu'ils donnent la ration à la maison? Ils nourrissent leur mari, ils vêtissent les enfants, et par après, ils sont orgueilleuses, elles sont orgueilleuses plutôt. Quel conseil pouvez-vous donner aux femmes de Kolwezi?
Les femmes comme ça, d'abord, ont un problème sérieux par rapport à leur éducation. Ça, c'est le premier élément. Parce que quand la femme elle est à la maison, elle est nourrie par son mari complètement. Si elle ne travaille pas, si elle n'a pas un travail rémunérateur, le mari la prend en charge. Est-ce que le mari, pour ses fêtes, il se tape la poitrine pour dire que voilà, c'est moi qui la nourrisse, c'est moi. Non, c'est un devoir qu'il fait.
Oui.
Et si le mari est en difficulté et que la femme prend le relève, je crois qu'elle n'a pas à se taper la poitrine. Au contraire, c'est une femme qui doit être encouragée parce qu'elle fait l'honneur de son mari. Et vous m'excuserez, peut-être moi j'aime bien faire référence à la Bible qui est écrit dans Proverbe 31 où on dit que la femme vertueuse, elle procure du pain à sa maison. Elle ne laisse pas reposer ses mains. Et cette femme-là, c'est son mari qui est loué et non la femme. Donc une femme qui travaille, c'est d'abord pour son foyer qu'elle est faite. Et c'est vrai que beaucoup de maris ont eu des problèmes parce que quand ils ont permis à leurs femmes d'exercer le commerce, et quand le commerce arrive à être florissant, et finalement la femme est stable les poitrines, elle devient impolie, elle ne respecte plus le mari, non. Ça vraiment, c'est que cette femme-là, elle est issue d'une mauvaise éducation. Ça c'est le premier élément. La femme, elle doit savoir que de la même façon que l'homme la nourrit.
Peut-être que l'homme est affaibli du fait que l'homme ne travaille pas et c'est elle qui prend toutes les responsabilités.
Justement, c'est parce que cette femme-là ne comprend pas son rôle.
Le rôle, d'abord, c'est l'homme qui doit prendre en charge sa famille.
Non, mais je viens de vous donner un exemple tiré de la Bible. C'est l'homme qui doit prendre soin de sa famille, oui. Mais on dit aussi que la femme, c'est une aide semblable. Donc, en tant qu'aide, c'est surtout le plan, même sur le plan financier, elle doit aider son mari. Mmh. Et ce n'est pas pour autant qu'elle doit devenir orgueilleuse, non. Elle ne fait rien d'extraordinaire, parce que ça a été prévu par le Créateur. Il a prévu que la femme devrait aider l'homme. Et alors, quand tu aides, cela ne voudrait pas dire que tu es au-dessus de celui que tu aides. Non, pas du tout. Mm-hmm. Chacun de nous, l'homme tout comme la femme, chacun de nous a un rôle à jouer. Et c'est ça ce qui est important. La femme doit savoir que si je fais ça, je le fais pour l'avancement de mon foyer. Voilà. Et non pour son avancement personnel.
Oui. Marcel Niboma, depuis Isiro, en province orientale. Bonjour.
Bonjour.
Oui, on vous écoute, Marcel.
Moi, j'avais une question. Isiro, il y a beaucoup d'associations. Souvent, vous allez voir que ce sont des hommes qui dirigent ces associations. Que faut-il faire pour qu'on ait beaucoup de femmes dirigeantes de ces associations?
Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup de femmes dirigeantes?
Ouais.
Dans une association.
Dans plusieurs associations qui sont dictées.
Madame Serge
Brigitte.
Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir des femmes dirigeantes?
Pour qu'il y ait des femmes dirigeantes, j'ai dit tout à l'heure qu'il faudrait que la femme se dise qu'elle a aussi des capacités, qu'elle peut mettre au service des autres pour aller de l'avant. La femme, elle a un grand rôle à jouer. La femme ne doit pas toujours continuer à être spectatrice. Elle doit être actrice. Et pour être actrice, il faut qu'elle prenne les devants. Il faudra qu'elle arrive aussi à se confirmer en tant que telle, en tant que femme d'abord. Confirmer aussi ses capacités intellectuelles, ses capacités de réflexion devant des hommes tout comme des autres femmes. Et elle doit se départir de ces complexes d'infériorité qui caractérisent toujours la femme africaine en particulier. Mm-hmm. La femme africaine est caractérisée par un esprit de complexe d'infériorité. Ce qui fait qu'elle se dit qu'elle n'a rien à dire là où sont les hommes, qu'elle n'a rien de nouveau à apporter là où sont les hommes. Et ça, c'est une grande fausseté. Il y a des femmes qui ont fait l'histoire. Il y a des femmes qui sont démarquées. Et même si nous regardons dans l'histoire de la femme africaine, on voit qu'il y a plus, je ne sais pas moi si c'est 100 ans ou combien d'années que Donna Beatrice a existé, c'était une femme. Mais elle a pris les devants devant les hommes. Et elle a prouvé que c'était une femme qui pouvait réfléchir et qui pouvait drainer les gens derrière elle. Donc la femme doit se départir de ses complexes et se dire qu'elle est avant tout un homme. C'est-à-dire un être humain, mmh. Et qu'elle a le même potentialité, les mêmes possibilités que l'homme, qu'elle peut apporter aussi sa contribution dans l'édifice de la nation, dans l'édifice de sa communauté dans laquelle elle vit. C'est la femme aujourd'hui, à 80% des cas, dans la ville comme dans le milieu rural, dans notre pays, avec les multiples crises qu'on a connues, c'est la femme qui fait vivre la famille. Oui. Si la femme n'était pas là, je crois que nombreuses familles auraient disparu. Mais grâce à elle, la famille est arrivée à se maintenir. Et même quand nous regardons, si un homme meurt, il laisse une veuve, la femme peut vivre encore 20 ans, 30 ans et faire vivre seule les enfants. Mais si une femme meurt et qu'il laisse un veuf, c'est difficile que l'homme tienne pendant une année seul. Il doit toujours chercher une femme à côté de lui. C'est pour dire que la femme, c'est une force. Mmh. Mais il faudra qu'elle prenne conscience que réellement elle est une force.
La femme est une force. Alors, pour celles qui veulent émerger, elles doivent d'abord mettre de côté ces complexes d'infériorité. Et puis, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent aller dans des associations féminines, elles doivent adhérer
pas seulement dans les associations féminines. Mm-hmm. Pas seulement. Moi, j'encourage beaucoup plus les femmes dans les associations mixtes, là où il y a des femmes et des hommes. C'est là où elles vont prouver réellement que devant les hommes, elles ne reculent pas. Dans les associations féminines, c'est bien, mm-hmm. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'elles peuvent discuter entre elles, mais quand elles se retrouvent devant les hommes, elles reculent. Mais dans les associations mixtes, c'est encore mieux qu'elles prouvent leur capacité, qu'elles se disent que non, nous avons aussi notre pierre à apporter dans l'édifice. Là.
On a souvent entendu les gens dire, bah, si Baton Arambo Kate, là où il y a les femmes, tout ça, et rien ne marche, c'est toujours des problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Ce sont des préjugés. On les appelle des préjugés, tout simplement. Mmh. Parce que les gens croient que réellement, là où il y a les femmes, il y a toujours eu des problèmes. Ce qui n'est pas vrai. Au contraire, c'est là où il y a les hommes qui a beaucoup plus de rivalité que là où il y a les femmes. Ce qui est vrai, ouais. C'est que les femmes sont tellement minoritaires, ouais. Que quand elles font quelque chose, et ça fait beaucoup de bruit. Mais les hommes, ils sont tellement nombreux que leurs actions malfaisantes sont noyées dans leur sont noyées dans leur nombre, en fait. Hein.
Ouais.
Mais ce sont des préjugés, tout simplement, ouais. Qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des réalités, non pas
du tout. Voilà, merci beaucoup Brigitte Kanika Saouda, experte en développement. Et à la prochaine.
À la prochaine, merci beaucoup.